Laudetur Jesus Christus.
Israël a-t-elle mis sa menace à exécution? Des premières frappes de drones ont eu lieu ce matin sur le territoire iranien. Malgré les appels à la retenue, l'État hébreu veut afficher toujours sa détermination. Nous ferons le point au début de ce journal. En Allemagne, deux personnes arrêtées pour espionnage à la solde de la Russie. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage au profit de Moscou. Nous retrouverons notre correspondante à Berlin. Dans ce journal également, reportage dans l'est de l'Ukraine, près de Kharkiv, où la population vit toujours dans la peur des bombardements russes. Nous irons aussi en France, où le Premier ministre Gabriel Attal souhaite restaurer l'autorité de l'État face à la violence des jeunes en milieu scolaire. Et puis, levée de rideau en Inde ce matin, un marathon électoral s'ouvre ce vendredi dans le pays le plus peuplé du monde. Le chef du gouvernement ultranationaliste hindou, Narendra Modi, compte bien remporter la majorité au Parlement et accroître son pouvoir. Retour sur ce scrutin hors norme qui va durer 44 jours.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, elle était annoncée, attendue malgré les mises en garde de ses alliés et les appels à la mesure. La riposte israélienne contre l'Iran pourrait donc bien avoir été lancée. Ce matin, plusieurs explosions ont été recensées dans le centre de l'Iran. Selon un dernier bilan officiel des autorités iraniennes, il n'y aurait pas de victimes ou de dégâts majeurs. En attendant, Xavier Sartre, le pays est en état d'alerte.
En effet, Olivier, selon les quelques informations qui nous parviennent et qui émanent de l'agence officielle iranienne, trois fortes explosions ont été entendues près d'une base militaire dans le centre du pays, dans la région d'Ispahan. La défense antiaérienne a été activée dans plusieurs provinces. Des drones ont été abattus. Les vols ont été suspendus brièvement en Iran avant de reprendre dans la matinée. Mais Téhéran ne fait pas mention de missiles. Les installations nucléaires n'ont pas été atteintes et sont totalement en sécurité, assurent les autorités. La plus grande confusion semble toutefois régner puisque l'agence iranienne Tasnim assure qu'aucune attaque de l'étranger n'a été menée et que les mini-drones auraient été lancé depuis l'intérieur du pays. Du côté israélien, pas de commentaires. Washington aurait toutefois été avisé par Israël, selon deux chaînes de télévision américaines, qui assurent que les Américains n'auraient pas approuvé cette opération et n'y auraient joué aucun rôle. Reste une certitude, les alliés occidentaux d'Israël n'ont cessé depuis dimanche dernier de dissuader le gouvernement israélien de répliquer à l'attaque iranienne qui, elle-même, avait été menée en représailles à l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas. Le pape Olivier avait lui aussi appelé les belligérants à éviter toute escalade dans la violence.
Merci beaucoup Xavier Sartre. Et l'Italie appelle à l'instant à la désescalade après les informations qui viennent de tomber entre Israël et l'Iran. Les États-Unis mettent leur veto à New York à une adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Un vote avait lieu au siège de l'ONU porté par l'Algérie qui demandait que la Palestine, État observateur depuis 2012, devienne un membre à part entière des Nations Unies. L'autorité palestinienne a dénoncé une politique américaine agressive envers la Palestine, son peuple et ses droits légitimes qui représentent une agression flagrante contre le droit international. À Gaza, les frappes israéliennes continuent elles aussi, rendant la vie des civils toujours aussi dangereuse et incertaine. Hier, à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres, son patron, a une nouvelle fois voulu interpeller sur la catastrophe humanitaire en cours dans l'enclave palestinienne. Une nouvelle affaire d'espionnage russe en Allemagne. Hier, deux germano-russes ont été arrêtés en Bavière, dans le sud du pays. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage à l'explosif pour soutenir Moscou. Les deux espions présumés auraient notamment visé des sites militaires américains sur le sol allemand. Les précisions de notre correspondante à Berlin, Delphine Herbollier.
Les deux hommes arrêtés hier en Bavière ont la double nationalité allemande et russe. Ils se seraient portés volontaires pour travailler avec les services de renseignement russes. Le premier aurait commencé ses activités en octobre, le deuxième il y a à peine un mois. Les deux espions présumés auraient mené des repérages sur plusieurs sites pour préparer des actes de sabotage graves avec usage d'explosifs dans le but d'affaiblir le soutien des alliés envers l'Ukraine. Ils auraient pris des photos et vidéos de sites industriels et d'une base américaine en Bavière où des soldats ukrainiens sont formés à l'utilisation du char Abrams. L'arrestation de ces deux hommes est un succès pour Berlin, mais elle lui rappelle l'ampleur des opérations d'espionnage menées sur son territoire depuis la guerre en Ukraine. C'est au moins la troisième affaire de ce type sur laquelle les autorités communiquent depuis un an. Et selon Berlin, tout prête à penser que d'autres actes de conspiration de ce type sont à attendre, une situation qui tend de nouveau les relations avec Moscou, des relations déjà au plus bas. Hier, la chef de la diplomatie, Annalena Baerbock, a convoqué l'ambassadeur russe en Allemagne. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
En Pologne, c'est un homme soupçonné de préparer un attentat visant le président ukrainien Zelensky qui a été interpellé. Il avait pour tâche de collecter et fournir des informations aux services de renseignement militaire russe, selon le parquet de Varsovie. Il était chargé en particulier de transmettre des informations sur la sécurité d'un aéroport du sud-est de la Pologne, utilisé souvent par le président ukrainien pour ses déplacements à l'étranger. Le ministère ukrainien de l'énergie appelle les entreprises, mais aussi les particuliers, à limiter leur consommation électrique. Les infrastructures énergétiques du pays ont en effet été sérieusement endommagées ces dernières semaines par les frappes russes. Selon Kiev, 80% des capacités de génération électrique nationale sont affectées. L'Ukraine, où les bombardements s'intensifient sur l'oblast de Kharkiv, à l'est du pays, dans le village de Liptsi, qui avait été occupé par l'armée russe pendant 6 mois au début de l'invasion, non loin de la frontière avec la Russie. Les habitants vivent toujours sous le feu des bombes, dans la crainte d'une nouvelle offensif des troupes russes. Le reportage sur place d'Iné Gilles.
Dans le village de Liptsi, à 20 km de la frontière avec la Russie, les sirènes d'alerte ne s'arrêtent presque jamais. Pourtant, des habitants ont fait le choix de rester malgré le risque de bombardement. C'est le cas de Valérie, 59 ans. 3 jours plus tôt, un missile russe s'est abattu dans son jardin.
C'est ce cratère. La bombe est tombée quand j'étais dans ma maison. Elle a brisé les fenêtres alentour.
Sur l'artère principale, des dizaines d'habitants patientent derrière un camion. L'ONG ukrainienne Proliska distribue du matériel d'urgence. Du bois, du plastique, des bâches pour recouvrir les destructions en cas de bombardement. Les frappes sont quasi quotidiennes. Alexandre, 65 ans, qui vit avec sa femme, repart avec 2 planches en bois.
On avait déjà eu besoin d'aide pour une autre explosion. Celle-là, il y a 2 jours, a cassé les fenêtres de notre cuisine.
Face aux violences des frappes ennemies, le quotidien est invivable. Certains habitants craignent un retour des troupes russes dans la région. Inès Gilles, à Liptsi, pour Radio Vatican.
La compétitivité de la zone euro au cœur d'une réunion des leaders européens hier à Bruxelles, avec une proposition formulée par l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, dans un rapport. Il s'agit d'unir les marchés financiers des 27 pour permettre notamment des levées de fonds afin de mieux financer les industries européennes. Mesure proposée évidemment pour faire face à la compétitivité américaine et chinoise. En France, le chef du gouvernement annonce ce qu'il appelle un sursaut d'autorité de l'État face aux violences perpétrées récemment par des jeunes d'âge scolaire. Gabriel Attal, le Premier ministre du président Emmanuel Macron, a dévoilé hier soir les grandes lignes d'un plan pour lutter contre les mineurs violents, et ce quelques jours après la mort de Chemseddine, un collégien de 15 ans. Il avait été battu à mort par d'autres jeunes. La correspondance de Marie-Christine Bonzon.
L'autorité est trop souvent défiée par une minorité de nos adolescents, a déclaré hier soir le Premier ministre, en dénonçant une violence parfois déchaînée que les Français ne supportent plus. Dans son discours, Gabriel Attal a estimé que la violence est favorisée par ce qu'il a appelé l'entrisme d'idéologie contraire à la République. Il a notamment pointé du doigt l'idéologie islamiste. Le Premier ministre donne 8 semaines à son gouvernement et à la société civile pour boucler la concertation demandée par le président Emmanuel Macron sur la violence des jeunes. « Ma boussole, c'est l'impunité zéro », lance Gabriel Attal. Parmi les mesures envisagées par le chef du gouvernement, envoyer les élèves difficiles en internat pour les éloigner des mauvaises influences, sanctionner les élèves qui défient l'autorité ou qui menacent de violence par une mention dans leur dossier scolaire, sanctionner les parents des missionnaires par du travail d'intérêt général, réguler l'usage des téléphones portables et autres écrans. Sur le plan judiciaire, le chef du gouvernement se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité dans les condamnations pénales. M. Attal n'exclut pas non plus la possibilité d'autoriser la comparution immédiate devant le tribunal pour les mineurs à partir de 16 ans. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, sachez que la 4e édition du Forum chrétien mondial se termine ce vendredi à Accra, la capitale du Ghana. Il réunissait depuis 4 jours des églises orthodoxes, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, indépendantes, mais aussi des organisations œcuméniques. Dans un message adressé aux participants, le pape François rappelle l'importance de l'unité des chrétiens et invite à incarner l'unité et l'amour du Dieu trinitaire dans la vie personnelle et ecclésiale de chaque chrétien, afin, je cite, de témoigner d'un monde marqué par la division et la rivalité. Plus d'informations sur cette rencontre et ce message à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. 44 jours de vote pour désigner les députés fédéraux en Inde. C'est un véritable marathon électoral qui débute aujourd'hui. Le grand favori des sondages n'est autre que le principal parti au pouvoir depuis 10 ans, le BJP, le parti nationaliste hindou. Le Premier ministre Narendra Modi va tenter cette année de remporter la majorité absolue au Parlement, éviter de devoir composer avec des partenaires de coalition. Le BJP qui a déjà accompli deux des trois principaux points de son parti, la construction du temple d'Ayodhya sur l'emplacement d'une mosquée, un symbole pour les hindouistes, et l'abrogation du statut d'autonomie du Cachemire, ne lui reste maintenant que l'instauration d'un code civil unifié, une réforme très controversée et dossier récurrent depuis l'indépendance, et une obsession du BJP qui a une grande crainte. C'est ce que nous explique ce matin Virmani Arundhati, elle est historienne de l'Inde coloniale et contemporaine à l'école des hautes études en sciences sociales.
Il y a une crainte, c'est la balkanisation du pays. Et puis, l'Inde est quand même entourée des voisins avec lesquels elle n'a pas des relations très simples. Et récemment, il y a eu des incursions de la Chine dans le territoire indien. Tout ça, donc, ça résonne fortement dans le pays et auprès de tous les partis politiques. L'Inde doit résister à toute incursion étrangère et se défendre. Ça, c'est un point important. Alors, comment effectuer ce pays uni? Il y a différentes approches. Un slogan très important, c'était l'unité faite de la diversité. Alors, l'unité faite de la diversité est plus difficile et complexe à gérer dans un système démocratique. L'autre voie qui est plus simple, c'est l'unité par uniformité, par un État extrêmement fort et plus centralisateur que fédéral. Et c'est la deuxième solution qui semble être suivie. Ce qui risque de créer des problèmes parce que avec le Sud, avec de l'Est, qui ont des cultures politiques aussi très différentes.
Alors, Narendra Modi fait face à de nombreuses critiques qui concernent sa pratique du pouvoir qui s'éloignerait, selon certains, de la démocratie. Est-ce que ces critiques sont vraiment fondées?
Tout est concentré sur la figure de Modi. Il est intéressant de comprendre comment quelqu'un comme Narendra Modi a un tel succès, et je l'explique par le fait que la culture politique indienne, les Indiens ont une sorte de faiblesse pour des figures un peu héroïques. Et Narendra Modi apparaît comme cette figure, mais si vous voyez dans l'histoire de l'Inde depuis, même avant l'indépendance, Gandhi a acquis un statut, le père de la nation, mais ça a continué toute une lignée de premiers ministres, à partir du premier ministre Jawaharlal Nehru, mais il y a dans d'autres états de l'Inde, cette culte de héros est extrêmement importante. Donc, d'une part, on le critique parce que c'est trop autoritaire et c'est trop de concentration de pouvoir, mais d'autre part, on ignore qu'en fait, cette culture politique répond à ça. Et en fait, en discutant cette question, on renforce cet aspect.
Dans ce contexte, qui peut s'opposer au BJP?
On note difficulté de faire des alliances entre ces partis. Les partis comme le Congrès sont très affaiblis par leurs difficultés internes, leur système de fonctionnement, leur incapacité de faire adhérer leurs membres à toutes les échelles. Il y a d'autres partis comme le Aam Aadmi Party, le parti de l'homme ordinaire, qui est affaibli à cause de l'emprisonnement de ses chefs pour corruption. Ça aussi, c'est une critique qui est fortement articulée contre le BJP, parce que même si la voie légale est suivie contre des acteurs politiques ou des industriels contre la corruption, on accuse le système judiciaire de montrer trop de zèle et trop d'intransigeance que vers l'opposition. Maintenant, il continue à avoir une opposition forte dans les États du sud de l'Inde, mais le résultat montrerait que si on peut continuer dans la voie d'une forte démocratie plurielle ou non.
Interrogée par Xavier Sartre, Virmani Arundhati, historienne de l'Inde coloniale et contemporaine à l'EHESS, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera bien entendu à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.
Thank you.